Carnet de région.
L'actualité des radios associatives locales en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du carnet de région, l'actualité de la semaine en région Occitanie, Pyrénées et Méditerranée, avec les radios associatives régionales qui vous proposent comme info cette semaine les épreuves du bac 2019 qui ont commencé lundi avec la philosophie. Un appel à la grève avait été lancé par le syndicat enseignant SNES-FSU le même jour. Béatrice Gilles, rectrice de la région académique Occitanie, fait un point de la situation avec notre consoeur de Radio Aviva. La communauté de communes du Clermontais dans l'Hérault a signé un nouveau type de contrat de 3 ans avec l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, un contrat qui donne droit à des subventions importantes en échange de travaux d'adaptation au changement climatique, un sujet de Radio Pays d'Hérault. La Ligue contre le cancer œuvre au quotidien pour les personnes malades. Une bénévole du comité du Gard fait le tour des actions prévues par l'association au micro de notre consoeur Mélissa Simon de Delta FM. C'est aujourd'hui que commence l'été. Bémol, la saison estivale est aussi synonyme souvent d'abandon massif pour nos animaux de compagnie. Nos confrères de RCF Maglone Hérault ont rencontré Annie Benezek, directrice de la Société Protectrice des Animaux Montpellier Méditerranée Métropole, pour tenter d'expliquer ce triste phénomène. Sarah Vidal, adjointe de la ville, se réjouit du retour des radios associatives au cœur du festival Estivada qui aura lieu à Rodez mi-juillet, un sujet de nos confrères de Radio Languedoc. Et nous refermerons ce journal avec une exposition estivale sur la nature au musée de Lodève. Nos confrères de Radio Lodève ont rencontré le photographe local Georges Souche qui propose des photos autour du lac du Salagou. Bienvenue, c'est le carnet de région, l'actualité en région Occitanie, Pyrénées et Méditerranée. Comme le veut la tradition, les épreuves du bac à lauréat commencent toujours par celle de philosophie, et le bac 2019 n'a pas dérogé à la règle. Cependant, avec les prévisions des grèves des enseignants pour surveiller les épreuves, lycéens et parents avaient quelques inquiétudes. Liliane Drey de Radio Aviva a pu rencontrer Béatrice Gilles, rectrice de la région académique Occitanie, qui a pu faire le point sur cette situation.
Madame la rectrice, bonjour. Ce matin, c'était donc l'épreuve de philosophie. Cet après-midi, nous nous trouvons au lycée Jules Guez pour les épreuves anticipées de français. Alors, quelques mots sur le climat. C'est un moment toujours très important, ce passage du baccalauréat, pour les élèves et pour leurs parents.
Effectivement, c'est un moment très important. C'est quasiment un rite de passage pour nos jeunes qui y accordent beaucoup d'importance. Et leurs familles, peut-être d'ailleurs encore plus que les jeunes, mais les enseignants aussi, y accordent beaucoup d'importance. Donc, vous le voyez, nous sommes aujourd'hui au lycée Jules Guez et tout se passe tout à fait normalement dans l'établissement. Les élèves composent en ce moment de façon sereine et je l'espère très concentrée jusqu'à 18h. J'ai trouvé des élèves comme à l'habitude, c'est-à-dire à la fois avec un zeste d'excitation mais aussi beaucoup de concentration pour les épreuves de philosophie de ce matin. La situation m'a semblé, pour la rectrice que je suis, assez habituelle ce matin à l'Odève. Mais c'est important, vous savez, le baccalauréat, c'est très important pour les élèves, pour leurs familles, mais c'est aussi, je crois, très important pour les enseignants.
Donc en fait, quelles que soient les prévisions de grève et autres, dans chaque établissement, l'ensemble des équipes se sont adaptées, se sont préoccupées de savoir comment ça allait se passer.
Effectivement, on a souhaité anticiper les éventuels problèmes de surveillance. Donc dans chaque lycée, eh bien, les chefs de centre, les proviseurs, ont appelé plus d'enseignants pour venir surveiller les épreuves. Ça s'est bien passé dans l'académie ce matin et apparemment cet après-midi aussi pour les épreuves anticipées de français. Toutes les épreuves se sont déroulées dans tous les centres d'examen tout à fait normalement aujourd'hui.
Cette année, les sujets du bac philo étaient « À quoi bon expliquer une œuvre d'art ?» ou encore « Est-il possible d'échapper au temps ?» Allez, vous avez 4 heures. La communauté de communes du Clermontais a signé mercredi 12 juin un contrat avec l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Le contrat définit l'ensemble des travaux à réaliser pour améliorer la qualité des réseaux d'eau potable, des réseaux d'eau usée et des milieux aquatiques de la communauté de communes. En échange, l'agence de l'eau subventionne une partie des travaux prévus par le contrat d'ici 2021. Elle promet jusqu'à 1 300 000 euros de subventions à l'intercommunalité, soit un peu plus du tiers des 3,5 millions d'euros de travaux prévus au total. La communauté de communes du Clermontais espère obtenir d'autres subventions, notamment de la part du département de l'Hérault. Dominique Collin, directeur de la délégation de l'agence de l'eau à Montpellier, s'est félicité de cette signature, ne tarissant pas d'éloges envers les élus de l'agglo, première à signer un tel contrat avec l'agence de l'eau.
La loi NOTRe, qui est une loi qui a été votée à l'unanimité du Parlement, a donné comme objectif national le transfert de la compétence eau et assainissement aux intercommunalités, avec une échéance à 2020. Ce qu'on peut dire sur ce territoire, c'est que la commune du Clermontais, les élus se sont donné collectivement un objectif d'anticipation de ces échéances pour ne pas avoir à faire ce transfert de compétences à 3 mois de l'élection. C'est ce qu'ils ont fait en janvier 2018. Et dans un élan assez unique et assez remarquable, ils se sont d'abord dotés d'une vision stratégique sur la question de l'eau, mais pas simplement de l'eau potable et de l'assainissement, mais aussi sur la question de l'adaptation au changement climatique, de la qualité des milieux aquatiques. Donc ils ont une vision stratégique. Ils se sont donnés solidairement les moyens d'agir financièrement. Donc ils ont une capacité de financer les projets. Ils se sont planifiés des actions. Et donc nous, quand on a un partenaire qui est aussi intelligent et efficace, c'est du gâteau. C'est le premier contrat qu'on signe depuis l'instauration de notre nouveau programme de l'agence. Et donc on a un certain nombre d'actions. Mais en tout cas, dire qu'avec cette collectivité du Clermontais, on a un partenaire fiable, efficace, qui comprend les enjeux de l'eau. Et c'est particulièrement agréable pour nous de signer aujourd'hui ce contrat.
Dominique Collin, directeur de la délégation de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse à Montpellier. Parmi les engagements pris par la communauté de communes du Clermontais pour bénéficier de ce contrat, on trouve un certain nombre d'actions qui ont pour vocation l'adaptation au changement climatique, comme par exemple la protection des captages d'eau, l'entretien des cours d'eau ou encore l'élaboration de projets d'innovation sur la valorisation énergétique des eaux usées par exemple. Reconnue d'utilité publique, l'association de la Ligue contre le cancer œuvre depuis 1918 pour les personnes atteintes d'un cancer. Le comité du Gard propose localement des actions pour accompagner les personnes malades et leurs proches. Une forte campagne de prévention est également mise en place dans la région, comme l'explique la bénévole Marie-Joëlle Ribard à notre consoeur Mélissa Simon de Delta FM.
Alors la Ligue contre le cancer est une association qui est complètement autonome, qui est subventionnée uniquement avec des dons de personnes, qui ne touche aucune subvention, qui est essentiellement axée sur l'aide aux malades. Bien qu'il y ait d'autres buts, si vous voulez, c'est aussi bien sûr la recherche, c'est également la prévention et c'est aussi l'information aux populations.
Il y a plusieurs buts, en fait. Vous avez d'abord la recherche, vous l'avez dit, vous accompagnez également pour aider, vous vous mobilisez et vous prévenez. Comment elle se passe, cette prévention?
Alors, la prévention, elle se fait à plusieurs niveaux. Alors, soit on travaille énormément avec les écoles, et entre autres, là, on a un projet avec les écoles d'Aigues-Mortes et du Gros-du-Roi. Il y a une personne qui est spécialisée dans la prévention, qui va dans les écoles régulièrement, donc une fois tous les X semaines dans l'année. Et c'est assez ludique au niveau des écoles, de façon à ce que les gamins, bien sûr, soient intéressés. Et puis aussi, il y a des campagnes de prévention contre le cancer du sein, contre le cancer du côlon, qui sont des campagnes nationales et que nous relayons, bien sûr, au niveau local.
Et vous avez également des actions concrètes pour accompagner les personnes malades, mais notamment leurs proches, avec une aide financière et 10 heures d'aide à domicile, c'est bien ça?
Oui, alors effectivement, disons que la partie la plus importante de l'aide aux malades, ça va être plutôt les soins support. C'est des soins de confort qui permettent aux malades de mieux vivre leur maladie, leur traitement et les effets secondaires. Et puis, effectivement, il y a aussi la possibilité, sous certaines conditions, d'avoir une aide financière ponctuelle. Alors, il faut savoir qu'on ne l'a qu'une fois, mais elle peut être très utile. Et puis également 10 heures d'aide à domicile pour les personnes qui, lors d'un traitement par exemple, sont obligées de partir pour garder des enfants ou pour avoir quelqu'un qui fait le ménage parce qu'on est trop fatigué. Voilà. Alors ce sont des aides qui viennent en complément de tout ce que les caisses complémentaires ou autres peuvent allouer. Ça n'existe qu'une seule fois, mais voilà, ça peut être très intéressant pour les personnes qui en ont besoin.
Donc vous avez également des projets sur Aigues Mortes et puis dans la région, quels sont-ils ?
L'association du Gros du Roi, les Poppins, ont participé à un rallye 4x4 féminin, donc c'est une équipe féminine de deux personnes, de deux femmes, qui ont participé au rallye de Matour, c'est le seul rallye 4x4 féminin de France, et elles ont remporté la première place à l'épreuve du trail, donc elles sont revenues avec une coupe, et on va fêter ça en mairie du Gros du Roi le 28 juin, en début d'après-midi à 14h30, voilà. Après, au-delà de ça, bien entendu, il y a des opérations qui peuvent être ponctuelles. Il va y avoir d'autres opérations, justement, avec les Poppins sur le Gros du Roi. Ensuite, il peut y avoir des ventes de fleurs, il peut y avoir des opérations avec les commerces, voilà, régulièrement. On a aussi des ateliers de couture pour fabriquer des coussins cœur, qui sont des coussins qui évitent la souffrance aux femmes qui ont été opérées d'un cancer du sein et qui ont un lymphome du bras. Ce sont des coussins qu'on appelle le coussin cœur par rapport à leur forme, effectivement, qui sont en forme de cœur, mais qui ont été créés et inventés par une chirurgienne américaine et qui ont vraiment des spécificités très précises, soit tant en termes de qualité de tissu, de la densité du bourrage, de façon à soulager les femmes qui ont été opérées. Nous avons maintenant, depuis début janvier 2019, une permanence qui est ouverte sur le Gros du Roi et sur Aigues Mortes. Donc tous les premiers mercredis du mois, sauf jour férié bien entendu, le matin de 9h à midi au Gros du Roi et de 14h à 17h à Aigues Mortes, des deux côtés au CCAS, dans les locaux du CCAS qui nous hébergent et qui nous reçoivent gentiment.
L'été est un véritable fléau pour nos animaux de compagnie. Chaque été, la SPA, la Société Protectrice des Animaux, recense 60 000 abandons d'animaux, 100 000 par an. La France détient même le triste record du nombre d'abandons d'animaux. Mais comment expliquer ces abandons ? Les explications d'Annie Benezek, directrice de la SPA Montpellier Méditerranée Métropole.
Il y a des fois où des abandons sont justifiés. Une maladie malheureusement très grave qui fait que la personne ne peut plus du tout assumer son animal. Ça nous arrive et on reçoit les gens parfaitement bien, sans juger qui que ce soit. Mais le trois quarts des abandons, c'est des abandons qui sont liés à des changements de situation personnelle qui ne nécessitent absolument pas l'abandon de son animal. On peut toujours gérer les situations si c'est un déménagement, un changement de travail, un changement de situation matrimoniale, on divorce, on se sépare. Enfin, pour nous, ça nous paraît des choses qui ne devraient pas entraîner l'abandon de l'animal.
60 000 abandons d'animaux chaque été, c'est
oui,
énorme.
Alors, moi, j'arrive pas non plus à comprendre ce processus. Nous, on le voit dans les chiffres, hein, au niveau de notre refuge de Montpellier. On voit à partir de mai les chiffres augmenter petit à petit. Et là, donc, là, juin, là, depuis à peu près quinzaine de jours, ça commence à être complet. Et vous voyez, on les voit monter en puissance, les chiffres, d'un seul coup. Parce qu'effectivement, les gens, comme ils vont partir en vacances en juillet, eh ben, ils préfèrent laisser leur animal parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution, ou ils ne veulent pas en trouver, plutôt. Et donc, les chiffres augmentent. Nous, l'année dernière, ça a augmenté de 40% l'année dernière. On a eu 40% de plus que l'année d'avant. À cette même période. Là, on espère que cette année, ça fera un peu moins, mais c'est mal parti, quoi.
Pourquoi juste avant l'été ?
Ben parce que les gens partent en vacances et je pense qu'ils ne veulent pas s'embêter. Je pense que c'est ça, surtout, c'est qu'ils ne veulent pas s'embêter avec un problème qu'ils ne veulent pas résoudre. C'est-à-dire, vous savez, pour garder son animal, il faut souvent payer, donc les gens ne veulent pas payer. Et comme ils ne trouvent pas de solution, entre guillemets, gratuite, ou alors ils se sont pris trop tard, il n'y a plus de place dans les gardiennages, eh ben, la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est de venir l'abandonner pour régler ce problème qu'ils ne veulent pas résoudre. C'est absurde. Et l'autre gros problème, qui est très important, qui représente plus de la moitié des abandons de l'été, c'est effectivement aussi les problèmes des stérilisations et des castrations qui ne sont pas faites. Donc on a énormément de jeunes chatons, on a énormément de chiots trouvés l'été, avant les départs en vacances ou pendant les départs en vacances. Et là, les gens donc, ont fait faire déporter à leur chienne ou à leur chatte. Et quand ils se retrouvent avec les chatons, eh ben, personne n'en veut. Et donc, la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est effectivement ou venir les abandonner directement à notre refuge, ce qui est quand même un moindre mal, ou alors de les laisser carrément dans la rue. Et là, c'est vraiment un souci important de gravité par rapport à la situation, puisque ces animaux sont sujets à se faire écraser ou à rentrer dans des conditions très, très graves. Quoi.
Annie Benezek, directrice de la SPA Montpellier Méditerranée Métropole, au micro de François Charbonnel de RCF Maglone Hérault. Au cours de la présentation du festival Estivada de Rodez, qui se déroulera du 18 au 20 juillet, Sarah Vidal, adjointe de la ville, se réjouit du retour des radios associatives au cœur du festival, dans le cadre d'un pôle radio auquel participeront Radio Albigès, Air d'Otan, Radio Occitanie, Radio Pays, CFM et Radio Languedoc.
Sarah Vidal, cette estivade de 12 000 Desenau est une estivade acquis pleine de rebondissements, de choses nouvelles. Les Bretons sont convidats, acquis, des musiciens, des gens de par ici. Et puis, à Tournamaille, un pôle radio.
Oui.
Avec Radio Languedoc, mais aussi d'autres collègues, Radio Occitanie, Radio Pays, Radio Albigès, Air d'Otan, CFM de Rodez.
Mais c'est important parce que, d'abord, les radios ont toute leur place aussi sur ce festival. Hein. D'ailleurs, elles étaient présentes hein, il y a quelques années. Je crois qu'il y a même eu quelques années où il y avait des télés. Je me souviens même que les télés de catalanes étaient présentes. Elles ont toute leur place parce qu'elles concourent, elles aussi. Elles ont un rôle déterminant aussi sur la transmission, sur la valorisation de cette culture et de cette langue occitane. Donc nous, on est très heureux en tout cas de les accueillir. Au même titre qu'il y a un salon des éditeurs, eh bien, il y aura un pôle média, en effet, avec les radios de tout le grand territoire occitan.
Merci Sarah Vidal. Bonne estivade alors.
Merci ce plat.
Et en attendant l'estivade, il y aura qui comme ?
Il y aura bien sûr quelqu'un. Il y aura encore beaucoup de manifestations qui sont organisées jusqu'à la veille du festival.
On peut les retrouver sur ?
Sur le site de la mairie de Rodez, www.mairie-rodez.fr.
Plat, merci.
Merci plat.
Depuis samedi dernier, le musée de l'Odev propose une nouvelle exposition temporaire durant l'été, intitulée « Paysages », en deux mots. Cette exposition met en lumière la nature à travers le temps. On y retrouve des peintures et des photos de différents artistes, dont notamment le très local Georges Souche, qui propose des photos sur le lac du Salagou. Le photographe revient sur son travail et sur ce lac du Salagou au micro de Damien Synthèse de Radio l'Odev.
Le lac du Salagou, en fait, c'est une longue histoire, puisque je le connais depuis que je suis tout petit. Je passais mes vacances à Lacoste, un petit village qui est à 10 minutes du lac. Donc, j'allais à Mobilette, m'y baigner, voilà. Et puis, quand j'ai commencé la photo, tout naturellement, ça a été mon vrai premier projet photographique. Et pendant 2-3 ans, c'était entre 94 et 96. Je l'ai redécouvert, en fait. Et là, depuis 2011, de nouveau, je me suis lancé dans un projet un peu monomaniaque qui est de le photographier un peu sur tous les angles, sous toutes les lumières et dans différentes conditions. Voilà. C'est un endroit où la lumière se transforme en permanence parce qu'il y a plusieurs petites collines, presqu'îles. Alors il y a une presqu'île au milieu, il y a des petites collines autour, ce qui fait que quand la lumière tourne, évolue, vous avez des ombres portées qui modifient la lumière, la perception du paysage, etc. Côté de ça, après, il y a la présence de l'eau avec les reflets qui démultiplient le paysage. On est en même temps sous le Larzac, donc il y a une météo un peu particulière, c'est-à-dire on a souvent des nuages sur le Larzac, il fait beau dans la plaine, on est un peu entre les deux. Il y a assez souvent des brumes en hiver, donc je pense qu'il y a eu tout un ensemble d'événements qui font que c'est un site particulièrement intéressant pour un photographe. On a un paysage qui s'est transformé par la main de l'homme. Alors tous les paysages se transforment par la main de l'homme, ne serait-ce que la vigne par exemple. Mais là c'est encore plus spectaculaire puisque cette vallée aride est devenue un endroit avec de l'eau, avec une végétation, des roseaux, des frênes qui ont poussé, des peupliers. Donc ça a été complètement transformé. Et après, la transformation par la lumière, qui est un peu mon travail depuis le début. Ce qui m'intéresse beaucoup dans la photo de paysage, c'est de montrer qu'un paysage n'est jamais statique. C'est ce qui me fascine le plus depuis toujours dans la photo de paysage. Et au Salagou, tout ça est un peu exacerbé parce que on a en même temps les reflets, voilà.
Cette exposition, qui s'intitule donc « Paysage », en deux mots, est à voir au musée de l'Odev jusqu'au 25 août prochain. Ainsi se termine ce carnet de région. Merci aux radios qui ont bien voulu contribuer à l'élaboration de ce magazine d'information cette semaine. Et merci aux autres radios pour sa diffusion. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour un prochain numéro du carnet de région. L'actualité en région Occitanie, Pyrénées et Méditerranée. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end ensoleillé.